Radio Barque, troisième, notre troisième partie, selon notre tradition, c'est celle qui est consacrée à notre invité, Paul-Henri Viala, donc ancien archiviste de la ville. Donc vous fûtes pendant de nombreuses décennies, Paul-Henri Viala, fonctionnaire de cette ville de Narbonne. Ce qu'on vient de dire là, ça vous a interpellé, même si vous n'êtes plus dans la fonction aujourd'hui?
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les conclusions de...
La Cour des comptes.
Oui, je comprends. Puisque moi, je suis en poste depuis le 1er février 1975 jusqu'à septembre 2014. Et j'ai vécu donc sur les différentes municipalités, les changements assez importants pour un fonctionnaire, entre guillemets, de ces jours de congé. Là, vous laissez entendre, enfin, la Cour des comptes laisse entendre que la ville, les employés de la ville de Narbonne bénéficient des jours de congé comme celui relatif à la commémoration de la commune ou du mercredi des cendres. Tout ça a été supprimé, on va dire, entre guillemets, sous l'ère de...
Du Bermouli.
Donc, je ne sais pas où ils ont tiré leur source.
Hein. Bon, ben, c'est une question à leur poser. En tout cas, témoignage intéressant, puisque là, c'est un contre-regard,
qui a été vécu.
Alors, revenons, Paul-Henri Viala, à votre fonction. Un archiviste, d'abord, bon, évidemment, comme aurait dit la Palice, c'est quelqu'un qui s'occupe des archives. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour une ville, les archives? Est-ce que ce sont seulement les documents historiques? Quelle est la définition, votre définition?
Oui, vous êtes encore gentil, parce que souvent on me pose un archiviste, ça sert à quoi? Donc voilà, donc on va essayer d'y répondre.
Moi j'ai posé comme axiome de base que ça peut servir.
Je vous remercie, ça peut servir, évidemment ça peut servir. Et c'est l'une des fonctions peut-être principales à l'intérieur d'une collectivité, d'une institution. Parce que, si vous voulez, grosso modo pour aller rapide, nous sommes là pour faire le ménage, entre guillemets, des différentes affaires, des différents documents qui ont été créés par l'institution. Et c'est à nous de savoir si l'on doit conserver ou pas conserver les documents. Alors, pour répondre à votre première question, les documents du présent, parce que les archives, ce n'est pas que le passé. C'est pas un document devient historique, entre guillemets, que par le fait du temps et parce qu'on l'a conservé. Or, c'est la fonction d'un archiviste de savoir, et ça c'est le côté le plus important et le plus difficile à mettre en œuvre, de savoir si je conserve ou je conserve pas ce document.
Parce que... Alors, document, ça peut être des contrats, des conventions.
Alors, le document, voilà, le document, on a l'habitude de, peut-être un peu moins maintenant, et c'est pas, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, on a l'habitude d'assimiler le document au document papier. Non, la loi sur les archives vous laisse entendre que ça va certes du document papier jusqu'aux dernières applications numériques, c'est-à-dire qu'il y a l'audiovisuel, le numérique, et on en est encore aujourd'hui un peu loin concernant la conservation définitive de ce genre de documents récents.
Oui, alors justement, une petite parenthèse, tous ces documents numérisés aujourd'hui, ils sont conservés où? Sur les ordinateurs de la mairie ou sur le cloud? Ou comment ça se passe?
Sur le quoi?
Sur le cloud, c'est-à-dire les grandes réserves mondiales de
alors,
données.
Théoriquement, je pense que ça se fait. Si on prend les méthodes d'aujourd'hui, la numérisation, le gravage des documents que l'on souhaite conserver, ça c'est surtout à des fins de gain de place, c'est ce qui a fait que c'est rentré dans nos services, hein, la numérisation, théoriquement devrait être conservé dans des lieux différents, plusieurs lieux différents, parce qu'on n'est pas à l'abri de ce que vous appelez un blog.
Un hyper bug.
Voilà, oui, c'est le blog de Michel, mais c'est le bug de là. Et si on perd donc ce genre de document, on perd tout. Parce que le problème de la conservation, c'est conserver pour éviter toute destruction irréversible. Quand vous mettez quelque chose à la poubelle, c'est parti. Voilà.
Et alors, pour la petite histoire ou même la grande histoire, pouvez-vous donner un ou deux exemples de faits récents où les archives ont été extrêmement bénéfiques à la ville? Je pense à Montmorency.
Ah oui, oui, oui. Ben ça c'est l'exemple type de la nécessité de la conservation de certains documents suite après un choix, hein, puisque on reçoit nous les documents ou plutôt on va les chercher parce que les services quels qu'ils soient souvent ont l'impression d'être dépouillés alors que les documents ne leur appartiennent pas. C'est à la collectivité, c'est à l'archiviste, au service d'archives.
Chacun thésaurise un peu.
Un peu ça, un peu ça. Et l'archiviste par des liens. Amicaux, professionnels, fait que on essaie de diminuer cette orientation. Donc on conserve ça et il s'est avéré que de par le travail de l'archiviste aussi, hein, il est payé, peut-être pas assez, mais il est payé, donc il faut bien que il rende service. Lorsqu'il y a eu cette histoire concernant le départ de la gendarmerie mobile de la caserne de Montmorency, l'État souhaitait vendre la caserne Montmorency, à qui, on ne sait pas trop, en tout cas à la collectivité locale qui pouvait se porter acquéreur.
Or, il se trouve que
le fait est que par mes recherches, j'ai réussi à trouver qu'il y avait eu en 1906, lors de la création et la construction de la caserne de Montmorency, une convention qui laissait entendre que certes, le terrain appartenait à la ville de Narbonne et les bâtiments étaient liés à la vie de l'armée.
Et appartenaient à l'époque au ministère de la Défense.
Au ministère de la guerre et au ministère de l'armée. Donc, et cette cause de convention a été importante puisqu'elle laisse entendre que tant que les bâtiments seront occupés par l'armée, et la gendarmerie, que ça soit, comme l'on dit vulgairement, la blanche ou la jaune, c'est l'armée. Tant que l'armée occupe les bâtiments, ça reste dans le giron. Voilà, ça reste dans le giron du ministère des armées. Mais le jour où l'armée déménage, et si l'armée ne réintègre pas ces bâtiments par une autre filière, mais toujours militaire, ça revient dans l'escarcelle de la ville.
De droit à la mairie.
De droit à la ville.
Oui, parce que le terrain avait une destination juridique précise. Là,
voilà, voilà.
Oui, donc ça a été une bonne affaire pour la ville. Oui,
voilà, ça a été le jackpot pour la ville de Narbonne et surtout pour les Narbonnais, puisque je pense que grâce à cette découverte, à cette recherche, les Narbonnais paieront moins d'impôts du fait que l'acquisition de la caserne a été d'un moindre coût, peut-être d'un coût égal à zéro. Voilà.
Alors dans les archives, il y a aussi des documents très très anciens. Laquelle utilité peuvent-ils avoir dans la mesure où la ville a énormément changé, évolué, s'est urbanisée? Est-ce que vous avez des exemples où ces documents anciens sont encore, à votre sens, valables et utiles?
Alors, un nouvel remerciement. Je vous remercie d'avoir utilisé documents anciens et non pas vieux papiers. Parce que souvent, dans le terme, c'est ça.
Comme quoi, nous pouvons être respectueux à Radio-Bartel.
Je vous remercie, c'est bien. Donc, oui, on a pas mal de documents qui seraient susceptibles d'éviter pas mal d'erreurs. Aujourd'hui, si on prend l'urbanisation, si on prend d'autres sujets comme par exemple la localisation de tel ou tel bâtiment qui jusqu'à nos jours ont toujours posé des problèmes alors qu'il existe dans les archives de la ville de Narbonne des documents qui seraient susceptibles d'aider aux décisions de nos décideurs. Je prends un exemple qui m'est cher, c'est celui par exemple de l'hôpital de Narbonne qui sans arrêt pose problème parce que c'est un hôpital dit urbain, plus ou moins au centre-ville, donc avec l'agrandissement des fonctions
enclavé,
de l'hôpital.
Quoi,
enclavé,
sens.
On cherche toujours le problème. Le problème se pose toujours au niveau du stationnement et autres. Et si l'on s'était penché un peu sur l'existence de certains documents, exemple dès 1926, on avait proposé de sortir l'hôpital de Narbonne de là où il est et de le mettre dans la zone aujourd'hui qui est devenue une zone banlieue avec un grand B, hein, dans le sens où c'est accolé à la ville de Narbonne, de mon plaisir.
De mon plaisir,
l'hôpital
oui.
de Narbonne était prévu Alors, on avait d'autres vues aussi, hein, avec à côté d'un aérodrome. Bon, ça s'est pas fait. Voilà, hein, c'est voilà, mais on aurait peut-être.
Oui, vous aviez des documents là-dessus.
On a des documents également qui peuvent expliquer le pourquoi des zones inondables.
Oui, alors Narbonne étant sujet depuis toujours dans le delta de l'Aude à des inondations, qu'est-ce que vous avez comme document très concret
on a les chronologies d'inondations de notre époque. Un certain temps, on parlait de la crue centenaire. Maintenant, c'est on prend sur 1000 ans.
Sur 1000 ans.
Bah ouais. Mais bon, il suffit de se pencher dans les archives de Narbonne. Sans arrêt, vous trouvez des textes comme quoi l'Aude déborde à tel en tel endroit. Il y a eu des soucis, la Robine. En étudiant ces textes-là, on aurait pu et on peut éviter quelques gros inconvénients dans le sens de l'urbanisation de la ville.
Oui, mais sauf que, par exemple, les Gassirales a été urbanisé très tôt, et puis il y a certainement d'autres quartiers qui l'ont été.
Oui, bon, on revient toujours au même point. Alors, vous dites très tôt, mais bon, parce que les décideurs, quels qu'ils fussent et quels qu'ils soient, auraient dû très tôt peut-être se pencher sur le contenu des archives municipales. Le fait est que les archives municipales de Narbonne sont, et c'est pas moi qui le dis parce qu'on me dirait que je suis chauvin, par de plusieurs personnes et au niveau national, un fonds, l'un des fonds les plus riches du Grand Sud de la France. Si vous voulez, à Narbonne, le plus vieux document que l'on a réussi à conserver date de 1148. Donc, le travail d'un archiviste, c'est de continuer cette conservation de 1148 à l'infini. Et tout cela a permis que, si l'on se réfère à l'histoire de Narbonne, il n'y a pas un événement national qui ne s'est pas passé à Narbonne, soit avant l'événement national, soit tout de suite après l'événement national.
Des répercussions.
Voilà, répercussions ou des avant-gardes de ces événements. Quiconque n'a pas appris en classe, alors qu'il suffisait de se pencher et puis bon, de faire passer le message, que la Révolution française, souvent, a été... Enfin, Révolution française, que vous appelez, vous, Révolution française, et que moi, je considère comme un accident historique dans le déroulement des choses.
Parle-t-on de 1789 ?
Voilà, la seule, oui, qui fait que cet événement a eu lieu parce qu'il y a eu des différences. C'est vrai qu'elles existaient, mais n'existaient pas toujours encore aujourd'hui. Elle existait du fait qu'il y avait le tiers-État qui était le seul à payer les impôts et autres. Alors que si l'on considère et que l'on étudie tant soit peu et que l'on fasse passer le message, Narbonne était dans ce qu'on appelait dans un pays à taille réelle et non pas à taille personnelle, comme la différence entre le Sud et le Nord. Et à Narbonne, que vous soyez noble, ménager, c'est-à-dire propriétaire, artisan, tout le monde payait les impôts.
Ah, donc la vie à Narbonne était, si je puis dire, plus démocratique,
plus égalitaire que vers le nord. Vers d'autres pays qui étaient... Alors évidemment, si vous aviez la malchance de naître dans un pays à taille personnelle, là, si vous étiez noble, vous payiez pas d'impôts. Le clergé payait pas d'impôts parce que eux, ils rendaient service à la population par leur travail de prière. Les nobles, c'était par le fait de la guerre et le tiers-état payait. Voilà. Mais Narbonne, c'était tout à fait différent. Mais ça, on l'apprend pas. On apprend toujours les stéréotypes qui font que... Voilà.
Et alors, ce document de 1148, d'abord, il était écrit en quelle langue et quelle en est la teneur?
Alors, ce document, c'est l'un des rares documents où j'espérais un jour remettre en activité, ne serait-ce que pour les Narbonnais, parce que ce document de 1148, si vous voulez, c'est un traité de paix, d'amitié et de commerce entre la ville de Tortose, donc en bas Barcelone,
Espagne,
hein, voilà, oui, oui. Entre donc la vicomtesse Ermengarde de Narbonne, et bon, les consuls de Narbonne, bien sûr, et les institutions de la ville de Tortose, qui laissaient entendre que du fait de l'aide des Narbonnais apportée aux gens de Tortose pour, on va dire ça pour être politiquement correct, pour bouter les Maures, M-A-U-R-E-S, hors du territoire, parce que les Narbonnais avaient contribué. La ville de Tortose a signé un traité de paix, d'amitié et de commerce. Il est donc moitié occitan, moitié français, pour pouvoir faire passer un peu, mais surtout en occitan, puisque c'était la langue qui était parlée à l'époque. Et depuis ce jour-là, ben, les Narbonnais étaient exempts de payer tous les droits de passage, puisque vous savez qu'à une époque, à la Révolution française, il y avait les droits de péage, les ponts, les rivières, etc. Donc aujourd'hui, si on le remettait en œuvre, on aurait l'autoroute gratuite jusqu'à au moins Tortose-Barcelone.
Ah, alors ça, il va falloir en parler à Vinci et aux autoroutes espagnoles.
Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est vrai, ça me fait penser à cela immédiatement, mais les péages autoroutiers ne sont pas une invention contemporaine.
Ah non, certainement pas.
Parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que les péages, le produit des péages sert à financer en fait, hein, l'entretien et la création d'autoroutes. Comme les droits d'octroi permettaient de financer des ponts, tout simplement.
Entre autres, et permettaient de financer les finances municipales.
C'est ça.
Ça a duré, l'octroi a duré à Narbonne jusque dans les années 52, 1952. Oui. On a encore les vieux ponts en état, dans le boulevard Auger, vous avez l'emplacement.
Il est bon de le préciser. Oui. Pour terminer cette interview, Paul-Henri Viala, racontez-nous quelques choses intéressantes sur l'histoire de Narbonne. Par exemple, la compagnie des pompiers et sa création. Vous avez des documents, choses là-dessus.
Vous savez qu'actuellement, je suis en pleine recherche et je pense un de ces jours, parce que pour un archiviste, le temps ne compte pas, mais il faut bien quand même avoir une date butoir, mais peut-être en 2017, sortir un ouvrage sur Narbonne que je pourrais appeler Narbonne vie quotidienne ou bien l'éphéméride narbonnaise pour raconter des histoires que tout le monde a oubliées et que tout le monde vit au jour le jour aujourd'hui, quoi. Et c'est pour ça que mes recherches sont un peu là-dessus. Et je me suis aperçu par ce biais-là, quelques histoires assez amusantes, par exemple concernant les pompiers. Aujourd'hui, les pompiers, ça nous paraît quelque chose de normal.
Évident.
Eh bien, Narbonne, ça a été le fait de la suite de certains accidents que l'on a décidé de créer. Alors, on va appeler ça une compagnie, mais au début, on n'appelait pas la compagnie. Deux groupes de personnes susceptibles
de lutter contre les incendies.
Et d'intervenir. Et cela, la première mention que j'ai trouvée date du 27 mars 1672, où, suite à un incendie qui s'était propagé dans l'île Saint-Quentin, c'est-à-dire côté ce que l'on appelle aujourd'hui le quartier de la Charité, chez un menuisier. Et c'est là que les consuls de l'époque se sont aperçus. Bon, il y a eu cet incendie, mais ça n'a pas été un incendie extraordinaire. Il n'y a eu que la maison qui a brûlé, mais les consuls ont pris conscience de dire, mais bon, il faudrait quand même avoir les moyens de lutter contre ces inconvénients.
Donc jusque-là, il n'y en avait pas.
Apparemment, non. C'était la population qui s'entraidait.
D'ailleurs,
on le voit dans les films, tout ça, chacun avec son seau. Donc là, à partir de 1672, c'était une maison, on a même le nom de où s'est passé le sinistre, d'un dénommé Arnaud Lacaire, qui était menuisier et charpentier, donc facile à brûler, puisqu'il y avait le bois. Et cet incendie a démontré donc au consul la nécessité d'avoir un groupe de personnes qui étaient prêts à répondre immédiatement à l'appel. Et c'est là qu'on a créé la première compagnie ou le premier groupe de pompiers, qui était au nombre de 12. Il y avait 6 maçons et 6 charpentiers. Et pour les obligés, pour pas dire les remercier de leurs activités, on a commencé à les plus ou moins professionnaliser, puisque pour qu'ils puissent répondre favorablement à l'appel, on les a exemptés d'une certaine imposition de l'impôt sur l'industrie.
Voilà, une première niche fiscale, en quelque sorte.
Niche fiscale, peut-être pas, parce qu'il y avait un rendu, quand même. Ouais. Hein, il y avait un rendu.
Voilà, mais en tout cas, merci, Paul-Henri Viala, donc, pour ce témoignage. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire, mais vous l'avez, vous y avez fait allusion. Il y a un livre qui se prépare.
Voilà.
Et on vous reverra au moment où le livre sortira et où il sera devenu quelque chose de concret. Le prochain Radio Bar, que nous y recevrons comme invité François Lieta, qui est le président du Parti Les Républicains dans les Pyrénées-Orientales. Donc, nous reparlerons de politique et nous irons faire un petit tour du côté du Roussillon ou du pays catalan, comme paraît-il, il faudra dire maintenant. Merci à vous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci bien.